Bienvenue sur Atypique, le podcast où nous explorons les parcours uniques de celles et ceux qui ont bravé les tempêtes pour devenir accompagnants. Des reconversions audacieuses aux défis surmontés, Atypique est fait pour inspirer, apprendre et évoluer ensemble. Dans cet épisode 3 d'Atypique, nous allons à la rencontre d'Aurélie Balevero, qui est passée de différents métiers aux soins énergétiques en passant par l'hypnose. Curieuse et toujours en quête de nouveautés, elle partage son évolution vers l'énergétique et la spiritualité, naviguant entre doutes et révélations. Aurélie parle de sa capacité à se faire canal, créant des espaces de connexion profonde, au-delà des mots où chacun explore son intérieur en toute liberté. Elle aborde les défis de se frayer un chemin authentique dans le monde spirituel. Découvrez le voyage atypique d'Aurélie dans lequel nous parlons de la puissance d'être soi, de l'authenticité, de la recherche de la fluidité et de la simplicité, sans pour autant rechigner à la remise en question. Salut Aurélie, ça va ?
Salut Laurent, ça va bien.
Ouais, je suis content de t'avoir, parce que ça... On se connaît de loin. Moi, je connais plus Jordan, mais c'est toujours voulu qu'on prenne le temps de discuter un peu plus. Que des fois, on a eu des échanges pas toujours très cool d'ailleurs sur Facebook.
Non, ouais, mais sincère après, c'est ce qui compte.
Voilà, dans nos énergies respectives, et donc ça, c'est plutôt cool de t'avoir. Pour ceux qui te connaissent pas, tu te présentes 5 minutes, où tu viens, ce que tu fais, où tu vas,
où je vais. Ouh là là, ça commence. Oui, donc je m'appelle Aurélie Malévero. Donc comme tu as un petit peu dit en intro, et oui, je fais mon coming out. Je suis la femme de Jordan Véro, pour ceux qui le connaissent. Et aujourd'hui, pour l'instant, moi, je suis énergéticienne. J'ai aussi pratiqué l'hypnose quelques années. Peut-être que si tu me réinterroges dans 4-5 ans, je ferai encore autre chose. Pour l'instant, je suis dans la passion de la transe non-verbale. Je ne parle plus pendant mes séances. Donc, j'expérimente des choses dans l'accompagnement.
Et comment t'as fait ce switch ce passage de l'hypnose à ou non-verbal, à l'énergétique, qu'est-ce qui t'a amené à ça?
Alors, comment te résumer ça? Déjà, pour remettre les choses un peu dans le contexte, puisque ton podcast s'appelle Atypique, j'ai une vie professionnelle, on pourrait dire atypique, puisque j'ai fait plein de métiers différents. Ce qui me motive surtout dans la vie, c'est la curiosité. Et dès que je m'ennuie, je passe à autre chose. Parce que je ne peux pas continuer un métier si je n'y mets pas tout mon cœur. Donc l'hypnose, j'y suis arrivée un petit peu par hasard. Bon, ça, tu vas me dire, il n'y a pas de hasard dans la vie. Ça devait sûrement être sur mon chemin. J'ai commencé à pratiquer un petit peu de manière scolaire à l'issue de la formation que j'ai faite. Mais je sentais bien que pendant que j'accompagnais les gens... J'étais beaucoup en transe, donc j'ai dû maîtriser ma transe pour ne pas être plus en transe que mes clients. Et puis, une fois que j'ai fait ce travail sur la maîtrise un petit peu de ma transe, il s'est passé des choses bizarres en cabinet que mon esprit cartésien n'arrivait pas à expliquer. Donc, ça a été une bataille interne pendant quelques années à me dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais encore dans ce côté qui peut être perché où il peut y avoir des charlatans, bon, tu vas me dire comme en hypnose aussi. Et puis j'ai même douté je me suis demandé si j'étais pas folle en fait, si je devenais pas folle, tu vois. Et puis ça a pris 4-5 ans où je suis allée regarder d'autres personnes qui travaillaient un peu de cette façon-là dans l'approche énergétique, qui percevaient des choses. J'ai fait mon petit travail d'enquête jusqu'au moment où je me suis dit, mais en fait, je m'en fiche de comprendre ce qui se passe. Je vais juste vivre le truc à fond. Et c'est ce que je fais pendant les soins énergétiques. Donc, je ne peux pas vraiment te dire ce que je fais comme métier. Je dis soins énergétiques parce qu'il faut bien que je communique sur quelque chose. Pour moi, c'est de l'accompagnement, mais dans une forme particulière.
Ok, comment t'as... Parce que c'est pas toujours facile de faire sa place, tu sais, entre les gens qui exploitent la souffrance, les gourous, les machins, et c'est en plus ce sujet qui est, je pense, important dans les gens qui ont des ressentis, des intuitions, des feelings, dans l'énergétique, là, d'avoir peur d'être fou, d'être folle, etc. Comment t'arrives à trouver ta place là-dedans? Enfin, t'as dit, j'arrête d'essayer de comprendre, mais c'est pas toujours évident, je trouve, dans ces sujets-là. Déjà, un, de l'assumer complètement, et deux,
comment dire ça, de pas être pris dans le panier des, ouais, des gourous tarés, des gens qui exploitent carrément la souffrance des gens.
Ça s'est passé déjà par un travail sur moi-même, à savoir quel était mon cadre, qui j'accompagnais, comment je formulais les choses. Donc, c'est classiquement passé par le travail sur mon site web, en fait. Tu vois, quand j'ai rédigé une foire aux questions, quand j'ai construit mon site, j'ai posé mon cadre, en fait. Donc, j'explique bien que je guéris pas. Enfin, tu vois, j'ai été au propre vis-à-vis, on va dire, de la médecine classique. Donc, je pense que j'ai une posture assez clean et carrée, qui fait qu'en plus, la plupart, je sais pas, je veux dire, 85% de ma clientèle, c'est des gens qui viennent du monde de la médecine. Donc, c'est que j'ai pas trop mal travaillé. Ils savent que je suis pas médecin, que je guéris pas. J'ai bien expliqué aussi tout mon côté cartésien qui m'a pas quitté, que j'ai toujours. Après, je pense que c'est ce que je dégage aussi. Je sais pas. Après, souvent, les gens me disent, j'ai vu votre tête, j'ai eu confiance.
C'est un paramètre important. Et cette dualité qu'il peut y avoir, à l'intérieur des, parce que moi aussi je suis assez cartésien, j'ai spiritualité tout s'est développé, même si ça se voit pas toujours sur internet, mais comment tu trouves comment tu arrives à éteindre la partie un peu question qui m'intéresse moi, un peu cartésienne, tu vois, qui se pose trop de questions, qui remet tout, qui cherche des explications à tout, et celle qui se laisse aller dans le ressenti, l'intuition, le
alors
le
feeling. Ça, j'ai travaillé pendant pas mal de temps, je me suis fait ma propre transe d'accompagnement. Ce qui fait qu'avant mes soins, mes accompagnements, on va dire, je me mets dans une transe particulière où, que j'ai travaillé, où j'ai des signes physiques pour me dire, ok, ben là c'est bon, je suis, qu'est-ce que je suis, tiens, je suis un canal en fait, parce que ma croyance, hein, ce qui n'appartient qu'à moi. C'est que quand je me mets dans cette transe, j'accepte juste d'être un canal pour accompagner l'autre. Mais moi, au final, je suis une petite chose là-dedans, en fait. Hein. Ça pourrait être quelqu'un d'autre. Mais j'ai des sensations physiques. Et pour répondre à ta question sur la dualité, ça m'a accompagné 3-4 ans, hein, où j'ai fait un peu comme une enquête policière. Je voulais être flic quand j'étais petite. J'aime bien enquêter. Quand j'étais gamine aussi, je voulais aller démonter tous les discours des sectes, tu vois. Quand j'avais 16 ans, mon rêve, c'était d'aller dans un truc de scientologie et de démonter tout le discours sectaire pour sauver les gens un peu, quoi. Donc, j'ai ce truc un peu avec moi-même aussi de me dire, d'aller chercher ce que je trouve pur, en fait, pour accompagner l'autre. Je sais pas si je réponds à ta question.
Si, ouais. Ça m'intéresse personnellement parce que moi j'ai eu une phase assez branchée, énergétique, spirituelle et tout ça. Je pense que j'ai pas mal de ressentis, je ressens et je lis assez bien les gens, mais il y a toujours cette part que j'ai du mal un peu à éteindre. Alors, peut-être parce que je suis parti un peu trop en néo-spirit et donc je reviens un peu. Je pense que c'est aussi une vague jusqu'à trouver un certain équilibre, mais j'ai souvent du mal à. Comme toi, j'ai un espace de transe. Alors souvent, c'est moi, sous la douche, c'est instantané. Et puis il y a, je sais pas, quand je suis avec quelqu'un en individuel, je décide de me connecter. Ça,
ouais,
j'ai l'impression
c'est
de plus être là. Peut-être que toi, tu appelles le canal. J'en parle souvent dans les formations. À mon avis, la présence, c'est l'absence de soi. Et donc la présence à l'autre, c'est l'absence de soi.
Ouais.
C'est un gros boulot. Mais il y a. C'est surtout avant, après, pendant. J'ai toujours cette part. Puis je vois bien sur Internet, j'en dis des trucs. Je vais dire, oui, mais tu sais, ça aussi, c'est un biais. C'est un peu relou que je trouve chez moi, que j'aime bien aussi, parce que c'est aussi celui qui me protège.
C'est ça. Il a besoin d'être là, ce côté aussi. Hein, en fait, dans la transe, là, que j'ai bossé pour... du coup, maintenant, je suis en transe en 10 secondes, hein, mais je l'ai bossé longtemps hein, pour être dans cet état-là. Il y a cette espèce de moment où, en fait, comme tu dis, je suis là, mais je suis pas là. Il y a quelque chose de plus grand que moi. C'est un peu une espèce de point zéro. Mais quelquefois, pendant les soins énergétiques, mon côté cartésien revient. Donc, je lui dis que c'est pas le moment. Hein. Voilà. Je sais quand c'est mon cerveau qui turbine et je sais quand c'est pas mon cerveau. Et à la fin des soins énergétiques, j'essaye de ne jamais interpréter. Je passe juste les messages ou les images que j'ai eues. En fait, c'est pareil, je me suis ancré un signe physique qui fait que je sais quand le message, je ne l'ai pas déformé, détourné. Tu vois ce que je veux dire?
Oui.
Et en général.
Oui, c'est la différence entre l'intuition, le ressenti et la projection.
C'est ça.
Enfin, ce genre de,
c'est ça.
D'idée-là. De...
Alors, quelquefois, mes clients sont.
Cette sensation, quand ça vient d'ailleurs et pas de quelque chose en
quelquefois,
toi.
Mes clients sont pas contents parce qu'ils voudraient que j'interprète. Et je leur dis non. Ou alors, je leur dis OK,
oui.
Mais ça va être mon cerveau. Donc, je peux être complètement à l'ouest de ce que je vais vous dire.
Et tu as dit plusieurs fois, c'est une transe
oui.
que j'ai travaillée. Et comment tu as fait ça?
Ah, écoute, comme je t'ai dit, moi, mes premières sorties de la formation d'hypnose, c'était soit je galérais avec les gens pour les mettre en transe, soit je partais dans une transe énorme et la personne me rejoignait, mais j'arrivais pas à créer la transe chez l'autre. C'était souvent ma transe qui se déportait sur la personne, mais c'était pas moi qui, enfin, je sais pas comment expliquer ça. Et quelquefois, j'avais des transes énormes. Donc, j'imagine les clients à l'époque, ils devaient se dire, mais pourquoi elle a les yeux qui vrillent, le visage qui est bizarre? C'est bon, je leur parlais, quoi. Et donc, je me disais, ah, c'est pas super quand même qu'ils voient un hypno pas se barrer dans une transe énorme alors qu'eux, ils sont dans leur fauteuil à me regarder, quoi. Et donc, c'est des trucs que j'ai travaillés. Je sais plus trop comment j'ai fait ça. À me mettre, tu vois, sur mon balcon, à regarder les arbres et à dire, OK, la transe, elle arrive, mais cette fois-ci, au lieu qu'elle me submerge, elle commence, je me faisais des inductions, tu vois, elle commence à un niveau, elle finit à un autre, et jusqu'au moment où j'ai la main sur le ventre, et là, elle est complètement posée, et je peux être avec l'autre. Le truc, c'était ça, c'est d'être avec l'autre. Et c'est ce qui me motive, en fait, moi.
Est-ce que tu penses que c'est quelque chose que tout le monde peut apprendre? De créer ce truc d'absence de soi, cette transpersonnelle.
Ah oui, c'était quand il y a 1 ou 2 ans, j'avais voulu lancer un petit atelier dessus, mais j'avais pas eu foule, donc je l'avais pas fait. Pour les hypnos ou les accompagnants qui sentent que des fois la transe elle est débordante, je pense que c'est un truc qu'on peut vraiment apprendre. Bah, je l'ai bien fait, donc tout le monde peut le faire.
Ouais, faut je veux dire, je parlais plus des ressentis des canals
Pardon.
Ça c'est est-ce que c'est une technique, est-ce que tu penses que c'est un truc qui est je sais pas, qui est là depuis qu'on est petit, qui se construit avec le temps, avec les expériences de vie? C'est t'as quel regard toi là-dessus?
Inné ou acquis? Je t'avoue que je sais pas trop. Je pense, mais je peux me tromper, qu'à la base on a tous plus ou moins des capacités plus larges que celles que l'on voit dans la vie au quotidien, des capacités moins cartésiennes, plus grandes. Après, elles sont différentes chez chacun, je pense. Moi, je sais que c'est un truc sûrement que j'ai mis de côté quand j'étais petite, parce que ça a dû. Je me sentais déjà un peu bizarre dans mes interactions avec les autres. Alors, je voulais pas en rajouter une couche, et je pense en assumant ce côté-là de moi. Il a fallu du temps pour que j'y arrive parce qu'il y a des événements de la vie qui me les ont renvoyés dans la tête. Mais après, comme je dis des fois à mes clients, des fois chez certains clients, je sens du potentiel de magnétisme, par exemple. Je te donne un truc au hasard. Mais comme je leur dis, ils le savent en général, ils perçoivent qu'il y a un truc. Mais comme je leur dis, ce n'est pas forcément dans cette vie-là que vous allez l'exploiter. Enfin, chacun, tu vois, chacun son chemin. On n'est pas obligé, c'est pas parce qu'on pense qu'on a quelque chose de particulier qu'on est obligé de l'exploiter. C'est un choix, ça fait aussi partie d'un travail sur soi, de choisir.
Ok. Tu dis dans cette vie-là, donc j'imagine que tu as un regard sur la spiritualité de plusieurs vies, machin,
Alors,
réincarnation.
j'en sais rien. Alors, c'est pareil, moi, j'ai une personnalité qui est, qui peut être pénible pour certains et bien pour d'autres, c'est que j'aime bien chercher par moi-même et apprendre par moi-même tout ce qui est un peu formation, tout ça, tout ce qui est déjà un peu préétabli, écrit, les règles, c'est comme ça et pas autrement, c'est pas pour moi. Donc moi, je suis plus dans le test de la vie quotidienne à faire mes petits trucs de mon côté et à voir ce qui me parle ou pas et à faire à ma sauce. Je suis pas scolaire, on va dire. Et là-dessus, c'est pareil, ma croyance, elle va peut-être évoluer. Je ne sais pas si on a des vies antérieures, si on a des vies parallèles. J'ai pas trop d'opinion là-dessus et je pense que je me prendrais trop la tête à avoir une réponse précise. Je teste juste, moi, je demande des... Tu vois, par exemple, je suis dans une période où je demande des signes, hein, et je m'en prends... J'en m'en prends beaucoup que je peux pas nier, que mon esprit cartésien ne peut pas nier. Parce que tu vois, en général, quand je demande des signes, je demande d'en avoir au moins quatre très clairs pour confirmer. Je n'accepte pas un signe que je pourrais interpréter, moi, tu vois, que mon esprit pourrait interpréter. Je veux des choses très, très claires. Et puis c'est pareil, communiquer avec les défunts, j'y croyais pas. Et puis bah, j'ai fait des soins énergétiques où il y a eu des coucous de défunts. Mais tu vois, ça, je le sais pas. Par exemple, je me rappelle d'une personne à qui je lui dis « Oh là là, je sais pas ce qui se passe, mais j'ai une odeur de tarte aux pommes qui me vient au nez, c'est délicieux. » Et en fait, ça a généré une émotion assez sympa. Alors, j'espère que je ne fausse pas le souvenir, mais c'était sa grand-mère qui lui faisait des tartes aux pommes. Tu vois, c'était un petit coucou pendant le soin.
Et ça, ouais. C'est l'expérience où l'esprit cartésien a du mal. J'en ai eu quelques-unes, des comme ça. Et c'est vrai que c'est... Enfin, pas sur l'odeur, mais sur d'autres trucs. Et c'est vrai que ça,
oui.
Ça fait réfléchir. Moi, ça me fait tourner le cerveau à 200 km/h. Mais...
Moi, j'étais pareil avant. Mais en fait, tu vois, depuis que j'accumule tout ça, c'est presque une normalité pour moi, en fait. De ressentir. Alors, je suis pas tout le temps. J'allais dire, le magasin n'est pas toujours ouvert parce que je serais épuisée de tout ressentir tout le temps. Donc, ça aussi, c'est un truc que j'ai appris à faire, c'est ouvrir et fermer la boutique, j'ai envie de dire.
Oui, t'as anticipé ma question suivante. C'est comment tu le gères, hein. Tu marches dans la rue, t'es au supermarché, tu fais tes courses. Enfin, dans la vie quotidienne, il y a des gens qui ont du mal à séparer, à réussir à
séparer,
fermer.
Je l'ai bossé ça.
Ouais, moi c'est un truc pour plus de mon côté, plus lecture des gens. Toi, les gens me disent, ah, t'es tout le temps en train d'analyser. Moi, ça me demande aucun effort, ça vient, c'est là, et donc c'est pas un effort de réflexion. Par contre, j'ai dû apprendre à le couper parce que sinon je vais en soirée. Et bon, ouais, je vois qui est en couple, qui est machin, qu'est-ce qui déconne, je ressens des trucs, c'est un peu emmerdant. Et donc, je perds l'expérience. La dernière fois, j'ai pas réussi à fermer, j'étais en spectacle avec ma femme, et devant, il y avait un couple, enfin, il y avait deux couples devant moi, un sur les côtés et un derrière, et je les entendais parler, j'entendais tous les trucs, les machins. Et là, j'ai pas réussi à, j'étais envahi de.
C'est ça.
d'informations et de trucs, mais ça m'a pété un peu mon. Ça m'a pété au début.
Ça aussi, j'ai appris à le faire parce que sinon, c'est je m'épuise. Hein. Et puis, je te donne aussi un exemple. Alors, je ne sais plus le terme. Tu vas sûrement pouvoir me le dire. Tu sais, quand on ressent tout intensément au niveau des sensations, que ce soit olfactif, toucher, c'est pas de l'hyperesthésie, je ne sais plus qu'on appelle ça. Là. Et en fait, moi, depuis que je suis petite, je pensais que tous les gens y ressentaient comme moi les choses de manière intense. Il n'y a pas longtemps, je suis allée voir une pièce sur Frida Kahlo. Mm-hmm. Et à un moment, la comédienne, elle parle de trucs sur sa souffrance, de trucs super hard, sur ses fausses couches, tout ça, quoi. Et moi, j'en étais presque à me sentir mal parce qu'il y avait le jeu de lumière sur scène, ce qu'elle disait. J'étais mais en mode, je vais prendre un malaise, en fait, parce que je sentais même ce qu'elle décrivait, quoi. Et en fait, il y a un moment où, du coup, j'ai fait un petit truc pour me calmer et j'ai regardé autour de moi. Et en fait, t'as les trois quarts de la salle, ils vivent pas du tout le truc comme moi, quoi. Donc, faut bien que j'apprenne à couper ça, parce que sinon, c'est l'horreur.
Bah oui, c'est sûr que c'est pas toujours, toujours facile. Et c'est un peu la même question que tout à l'heure, mais comment tu fais pour couper? Comment t'as appris à faire ça? Il suffit pas de le vouloir, tu vois, des fois.
Bah, je suis passée par mon côté intuitif, hein, j'ai envie de te dire. Pareil, je recommence une petite transe et je fais un geste ou un truc qui fait que je me calme. Enfin, intuitivement, instinctivement, je sais quoi faire, en fait. J'ai un geste que je fais beaucoup qui m'apaise, en fait. Je me mets la main sur l'épaule et en général, ça me calme. Je me suis fait des ancrages, en fait.
Alors, c'est peut-être indiscret, donc tu réponds si tu veux pas, mais... Dans dans la relation de couple, surtout quand l'autre est aussi dans l'accompagnement, les outils, etc. Comment toi tu vis ça? Est-ce que ça t'a posé problème des fois? Est-ce que ça vous sert?
Bah, enfin, tu vois ce que...
pas toujours évident d'en avoir un qui est connecté, qui a des ressentis, qui est dans l'intuition, l'autre, soit qui n'est pas du tout dedans, comme moi à l'époque avec ma femme, où elle était à des années-lumière de s'intéresser à ça, et ouais. Donc ça crée un peu de distance. Moi, ça m'intéressait, et tu vois, et aujourd'hui, c'est plutôt le contraire. Et donc,
avec Jordan, on a vraiment deux personnalités très différentes. Alors, déjà, quand il m'expliquait sa façon de faire l'hypnose, elle est pas du tout, c'est pas du tout de manière de faire l'hypnose. Donc, ça m'a jamais posé souci. Je faisais mon petit truc, moi, mon petit travail perso. Lui, il est pas dans le jugement, donc voilà. Maintenant, il expérimente un peu plus la découverte de choses spirituelles, mais c'est son chemin. Comme on n'est pas dans l'idée de se... En fait, j'ai pas besoin de son aval, il n'a pas besoin du mien. Tu vois, on a nos univers qui peuvent se compléter. Il fait son chemin, je fais le mien. Non. Le seul truc qui m'a saoulée au début, c'est quand je faisais ma formation d'hypnose et que les gens savaient que j'étais sa femme, ils changeaient vraiment de comportement avec moi.
Oui, ma femme a vécu ça aussi dans certains stages.
Et tu as toujours cette croyance que du coup, tu es la femme d'eux ou le mari d'eux et que tu es comme l'autre, quoi. Que tu es comme ton mari ou comme ta femme. Non, excusez-moi les gars, j'ai ma propre personnalité. Ouais, c'est dingue.
Ah bon. Incroyable, c'est dingue. Je pense que c'est un sujet intéressant. C'est ce que tu dis là, justement, cette idée d'avoir chacun son univers, etc. Parce que moi, je vois, j'accompagne des gens qui se lancent dans l'accompagnement de la thérapie depuis pas mal de temps. Et très souvent, ça génère des conflits dans les couples, tu vois, parce qu'il y en a un qui avance, qui se dit j'évolue. Il y a une espèce d'ego spirituel ou de développement personnel, chacun met les mots qu'il veut dessus, mais qui fait qu'on attend que l'autre fasse le même chemin, tu vois. Dans ce que tu décris, il n'y a pas d'attente de l'un, il n'y a pas de jugement, il y a le respect du chemin de l'autre, que moi, personnellement, j'ai mis un peu de temps au début avec ma femme, parce que créer des problèmes, tu vois, justement de réussir à accepter qu'on peut avoir des univers complètement différents, voire complètement opposés.
Peut-être que j'enjolive un peu le résultat. Ouais, il y a peut-être une période effectivement où j'étais dans l'attente de me dire mais je découvre un monde merveilleux, j'ai envie de lui partager, et puis que ça retombait à plat quand je lui en parlais. Et d'un autre côté, en fait, si tu veux, moi, ce genre de truc, je prends toujours ça comme une opportunité personnelle de travail sur moi. Donc, à chaque fois qu'il y a un truc comme ça, je me dis le problème, c'est pas l'autre, c'est ton attente vis-à-vis de l'autre. Donc, je suis en travail sur moi de manière assez constante. Hein. Des fois, je me fatigue, hein, donc je fais des semaines où je fais aucun travail sur moi. Moi, j'aime bien me remettre en question. Mais des fois, trop. Alors, des fois, il faut que je fasse des pauses, parce que c'est aussi aux autres de se remettre un peu en question, des fois.
Oui. Oui, c'est l'inconvénient de ce que moi j'appelle la responsabilité, mais je pense que c'est un sujet qui est vachement important, mine de rien, pour ceux qui nous écoutent. On a fait un certain chemin dessus, mais ce que tu dis, moi, c'est ce qui m'a aidé aussi, c'est de me dire, ok, c'est pas le problème, c'est pas l'autre, c'est moi. Donc, qu'est-ce qui fait que ça me gêne? Qu'est-ce qui fait que ça me dérange? Et cette espèce de remise en question personnelle permanente, c'est vrai que c'est un peu fatigant. Des fois, mais ce que je trouve intéressant dans ce que tu décris aussi, c'est qu'il n'y a pas... Tu dis « je travaille sur moi », tu l'as dit déjà pas mal de fois depuis le début, mais j'ai l'impression que quand tu le dis, il n'y a pas d'intention autre que « voilà, j'ai vécu ça, je ressens ça, ça me dérange pas, et donc je l'explore plus que je le travaille », tu vois ce que je veux dire? Alors qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans la démarche de travail sur soi pour être mieux, pour être meilleur qu'eux, pour atteindre un truc, qui, à mon sens, est un problème. Mais dans ce que j'entends quand tu le décris, on est plus dans je le fais pour évoluer, pas la notion de travail.
T'as raison, le mot, il n'est pas...
J'entends ce que tu dis quand tu le dis, mais...
T'as raison, le mot, il n'est pas joli. D'ailleurs, quand je le dis, j'aime pas non plus. Oui, c'est plus une exploration. En fait, pour moi, c'est des expériences qui sont sur ma route, et voilà, comment je les prends. Et puis, moi, j'accepte... pour le coup, assez bien d'avoir des périodes où je vais mal maintenant. Avant, c'était compliqué. Maintenant, je le prends avec vachement de recul en me disant, ok, c'est un moment où tu dois pas être bien et c'est ok. Et après, ça ira mieux. Je suis vachement plus philosophe. Mais parce que du coup, je suis aussi arrivée à un métier où je sens que j'ai ma place, en fait. Tu vois, je ne sais pas trop comment le verbaliser autrement. Je suis là où je dois être, je crois. Je crois, parce que. Je crois, tiens, c'est rigolo. Parce que je m'interdis pas de penser autrement dans quelques années. Voilà. Mais pour l'instant, je suis là où je suis.
Ouais, c'est un sujet qui revient souvent dans les podcasts, dans les coachings, dans les formations, partout, cette idée de d'être de place, d'être à sa place. C'est un sujet qui me questionne aussi, moi, plus dans le positionnement avec qui j'ai envie de parler, où j'ai envie d'aller, etc. Parce que je suis un peu comme toi, moi, je fais des trucs, si je m'ennuie, j'arrête. Et donc, comment tu... Les questions, j'ai conscience qu'elles sont difficiles, puis c'est parce qu'elles m'intéressent, moi, hein. Mais comment tu sais, toi, que c'est ta place, que
Parce
c'est
que
quoi tes critères ou
parce que
tes
je me pose
ressentis?
zéro question. Tu vois, quand je faisais de l'hypnose, que je sortais de séance, où ça s'était plus ou moins bien passé, machin et tout, je décortiquais tout et je disais, ah là là, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais. Là. Il y avait une espèce de truc de compétence qui se mettait en place. Le vouloir bien faire et en fait quand je fais mes soins énergétiques comme je t'ai dit comme en fait je suis là et je suis pas là je suis là je suis pas là c'est une autre posture et c'est pas pour me dédouaner hein, parce que tu sais il y a le côté où on pourrait se dire elle se met genre elle est canal c'est pas elle qui fait elle fait pas le job je le vis pas du tout comme ça j'allais dire je me prends pas
Oui, c'est ce que j'allais dire. Il y a la différence entre zéro question, genre j'en
pas
ai
du
rien à
tout.
foutre, je me pose pas de questions, et le zéro
C'est
question parce
fluide,
que c'est
c'est ça.
fluide.
C'est ça.
C'est pas le
Et
même.
puis,
Ouais. C'est le mot qui me
ouais, c'est
venait.
difficile de le verbaliser, ça, ah bah tiens, je vais utiliser un mot qui est souvent revenu, je pense, dans les podcasts qui ont pu être faits. Et je me sens légitime, c'est ça, le truc légitime. Je comprenais pas ce que ça voulait dire à chaque fois, les problèmes de légitimité, les machins, trucs et tout. En fait, ouais, c'est ça, légitime. Je sais pas, ce mot est bizarre, quoi, mais en tout cas, je me pose pas de questions. Je suis avec l'autre. Moi, mon envie, c'est de toujours être sincèrement avec l'autre.
Mais c'est le c'est ce truc de fluidité là, de légitimité après. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps j'écoutais un gars qui disait trouver sa place, son positionnement, avec qui on a envie de travailler, ce qu'on a envie de faire, c'est souvent là où c'est facile, où ça demande pas d'effort, pas au sens, pas de travail, pas d'évolution personnelle, ça, mais c'est naturel, tu vois. Et moi je vois il y a des trucs que ces dernières années, ces derniers temps, en me cherchant un petit peu, j'ai mis de côté. Et en fait, c'est comme si j'avais laissé ce qui est facile. Ce qui est, pour plein de raisons, et des bonnes et des mauvaises, mais je me dis, si c'est facile, bah, c'est quoi l'intérêt? Parce que moi, j'aime bien la contrainte, j'aime bien quand c'est compliqué. Mais il y a le facile, et je pense que c'est un truc sur lequel j'ai évolué récemment. Justement, cette différence entre le facile, fluide, et le facile parce que c'est facile, parce que c'est pas
Ouais,
un...
je comprends ce que tu veux dire.
Le lever d'une chaise, c'est facile, mais c'est pas le même fluide que d'être en lien avec quelqu'un ou comme toi, d'avoir ce côté canal, etc. Et je pense que
Alors.
c'est pour ça que je te posais ces questions, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans cette problématique de facile, facile, fluide, trouver sa place, et que c'est un sujet qui est
Ouais.
pas évident. Mais le fait d'en parler, je
Alors.
pense que
Ouais,
c'est intéressant
je vais
pour tout le monde.
te donner un exemple, par exemple, de là où je pourrais comparer ce que je ressens un peu quand je suis dans mes accompagnements. Moi, depuis que je suis petite, je suis fascinée par les animaux, je suis très à l'aise avec les animaux. Toi qui as des chiens, tu vas pouvoir comprendre ça. Et je me pose pas de questions dans mes relations avec les animaux. J'observe, il y a un truc qui se passe, c'est dans les yeux. On parle pas, on se regarde. Il se passe, je suis bien. Voilà. Et ben c'est exactement ce que je recherche dans mes soins, c'est dans un rapport animal avec l'autre en fait, où on enlève tout ce qui est considération psycho machin et tout. Je suis vraiment dans ce truc, on se voit en fait. Et c'est pour ça que dans mes soins, souvent je ne parle pas, je ferme les yeux parce que je vois les autres, mais je les vois différemment, pas avec mes yeux.
Ouais, je comprends. Bon, toujours ma partie qui me dit Moi, ce qui me dérange dans tous ces trucs-là, que ce soit l'hypnose, l'énergétique, médiumnique, etc., c'est les gens qui sentent le filon, tu vois, et qu'en font l'exploitation de la souffrance. Donc, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure sur les sectes. Donc, il y a un côté chevalier blanc, attention, ces gens-là sont dangereux. Et en même temps, dire ça aussi, c'est important. Il y a peut-être des trucs, chacun a un chemin à faire, évoluer, sortir du cartésien. Et j'ai toujours ce conflit entre des gens qui vont dire « Ah, je me dis, il y a peut-être des gens qui vont écouter ça et se dire oh, « bah, ok, super, demain, je me lance, j'ouvre un cabinet, je dis que je fais de l'éther énergétique, je me tais, je dis n'importe quoi et roule ma boule. »
On ne pourra pas l'empêcher, j'ai envie de te dire. Moi, mon côté justicier... Il me titille fort hein, quand je vois des trucs qui me révoltent et en même temps, je peux pas... La seule chose que je peux, sur laquelle je peux agir, c'est ce que je fais moi et ce que je dis moi. Alors bien sûr, hein, on peut dénoncer des comportements, hein, mais je peux être au clean qu'avec moi-même. Donc, je le suis. Hein. Je vais te dire que des fois, j'ai des clients que je sens dans une espèce de tourisme thérapeutique qui me disent « Bon, alors aujourd'hui, je vais faire un soin énergétique. Là, dans 3 jours, je vois une médium. La semaine prochaine, je vois je sais pas qui. » Ben, moi, je leur dis. Je leur dis « Ok. » Ben, je leur explique que pour moi, c'est... Enfin, je le dis de manière gentille, hein, mais je te le dis de manière un peu plus cash, que c'est du tourisme thérapeutique et que ça dit aussi quelque chose sur ce qu'ils attendent de la vie, c'est-à-dire du fast, presque comme du fast-food, du fast-healing, tu vois, je ne sais pas comment je pourrais dire.
De l'Instagram voilà, thérapeutique.
Et que c'est OK, que j'accepte qu'il soit comme ça, mais que moi, je ne suis pas dans ce truc-là et que, bah, à voir si on se reverra ou pas. J'ai dû aussi faire aussi, tu sais, passer un temps, je me disais, putain, je comprends pas, les gens en hypnose ou en soins énergétiques, des fois, ils viennent me voir qu'une fois. Et alors, ça cogitait. Et je me disais, ils ont été contents, pas contents. Puis jusqu'au moment où je me dis, OK, faut pas que je me pose ce genre de questions. J'ai travaillé avec le cœur, j'ai fait ce qu'il fallait faire sûrement. Voilà. Et c'est souvent au moment où j'accepte de pas avoir de nouvelles de la personne que je reçois un texto 2-3 ans après. Ah, je vous ai pas dit, en fait, c'était vachement bien. Le moment où je me suis arrêtée de me prendre la tête.
Oui, il y a pas très longtemps, j'ai reçu un mail d'une nana que j'avais vue qu'une fois il y a 7 ans. Mais la rallonge de remerciement, toi, qu'il faut être patient.
Et c'est très bien.
La reconnaissance.
Mais justement, tu vois, le fait que je me pose toutes ces questions, c'est que j'attendais une reconnaissance. Mais bah, la seule reconnaissance, finalement, qui est saine, c'est celle que. Enfin, j'ai envie de dire, à la fin de mes soins, de mon travail, je me dis, est-ce que j'ai travaillé avec le cœur? Est-ce que j'ai été clean? Et ça, c'est ce qu'il me faut. Après, est-ce qu'il advient de la personne? Je ne peux pas l'empêcher d'aller faire du tourisme thérapeutique. Je ne peux pas l'empêcher d'écouter des charlatans.
Oui, c'est sûr. Oui, moi, j'ai pris le parti d'en parler, de faire le podcast, d'inviter des gens que je trouve bien dans le domaine. Et puis après, les gens font le tri, et puis on verra bien. Si y a pas mal de gens dans le milieu qui débutent, des hypnos, des thérapeutes énergétiques, quel conseil tu donnerais à ces gens qui ont envie de se lancer dans l'accompagnement, des conseils pour réussir, pour trouver sa place, etc. Mais aussi par rapport aux difficultés qu'il peut y avoir.
Bah, écoute, moi déjà, je suis en plein dedans. Hein, parce que autant quand j'ai démarré en hypnose, assez facilement, j'ai eu des séances, ça se passait bien. Enfin, je suis quand même à l'aise avec l'accompagnement, tu vois. Ce que je veux dire, c'est un truc que j'ai quand même en moi. Parce que je me rappelle ma première séance d'hypnose, pour la petite anecdote, c'est une dame qui me dit par téléphone « Je viens vous voir parce que je ne sais pas dire non. » Je lui pose un peu des questions, puis elle reste vraiment sur cette idée. Donc, je me dis « Bon, ça va, c'est pas du lourd, c'est ma première séance officielle, c'est coolos, quoi. » On arrive, je commence le travail avec elle, et en fait, le « je ne sais pas dire non », c'est parce qu'elle avait été violée. Donc, c'était ma première séance, tu vois. Et ça, le truc, faut aussi se poser la question, c'est est-ce que je suis à l'aise humainement avec ce qui peut arriver, ce qui n'a pas été dit par téléphone. Et alors, ça ne va pas être humble de ma part, mais je l'assume. Je sais que moi, j'ai été assez costaud pour accompagner ce genre de choses, en fait. Et dès que il y avait quelque chose avec lequel j'étais pas à l'aise, que je pensais qu'il relevait de la psychiatrie ou de la psychologie, j'avais aussi le réflexe en hypnose d'orienter, tu vois, de me dire ça c'est pas pour moi. Et peut-être les 2 seules fois où j'ai pas dû le faire, Je l'ai bien regretté parce que bah, du coup, c'était pas bien. C'était pas bien ni pour moi ni pour le client. Après, le conseil, pourquoi je suis qui pour donner des conseils, moi? Faut quand même se dire qu'il y a beaucoup de monde.
Tes conseils, c'est plus le mot est peut-être mal choisi, c'est plus qu'est-ce qui t'a aidé toi dans les difficultés, dans ces trucs-là, tu partagerais, toi, si ça aide des gens, tant mieux, si ça n'en aide
Qu'est-ce
pas
qui m'a
d'autres,
aidé moi? Bah, en fait,
tant
si
pis.
je te réponds, ça va correspondre à ma personnalité. Donc, il faudrait que ceux qui écoutent et à qui ça parle, ça résonne un peu
Justement, c'est ça qui m'intéresse, c'est qu'il y a des gens qui vont s'identifier à ta personnalité, ton énergie, parce qu'ils vont dire tiens, c'est marrant, ça me ressemble, et donc ça peut leur profiter, puis d'autres, auquel
Je
cas,
vais
bah,
te
c'est pas le
dire
cas.
mes regrets, les trucs
Bah,
que je modifierais. J'en ai pas beaucoup dans la vie, mais des fois j'en ai. C'est que des fois,
ouais.
quand je me suis lancée dans des formations d'hypnose ou dans d'autres trucs, dès le départ, je savais qu'il fallait pas que j'y aille et j'y suis allée. Et j'aurais gagné du temps à pas les faire.
Ouais. Ouais, c'est vachement
Voilà,
fréquent, mine de
donc
rien.
vraiment, j'aurais, mais vraiment, vraiment, vraiment gagné du temps. Et émotionnellement, ça aurait été plus sympa aussi. Ceux qui nous écoutent, hein, qui sont intuitifs, instinctifs, je veux dire, écoutez vos instincts et votre intuition. Hein, voilà, parce que j'ai tendance, moi, tu sais, à être un peu, alors je vais dire le mot que t'aimes pas trop, mais un peu bisounours, à me dire quand je capte du mauvais chez les gens ou un truc que je dis, je me sens pas, j'enjolive toujours un peu à me dire, ah non, ça peut pas être comme ça, tu vois, comme si ça faisait pas partie de mon cadre de pensée.
Oui, le non-jugement, le
C'est
non-jugement, la
ça.
bienveillance, il ne faut pas juger les gens. Et ce qui fait un peu oublier des fois ce ressenti, ce
Voilà,
gre-gre que
et
moi
puis.
j'appelle,
C'est
et souvent
ça.
très
Et ben
juste.
maintenant, mon gre-gre, je l'écoute bien, tu vois.
Et tiens, ça fait penser, est-ce que tu as... Moi, il y a des écoles que je recommande à certains
Ouais.
profils et pas à d'autres, parce que il y a des gens que j'appelle des
Ouais.
naturels, qui sont plutôt intuitifs. Ma
Ouais.
femme, elle est comme ça, par exemple. Je me dis, je l'envoie dans certaines
Ouais.
écoles très techniques. Alors qu'elle est probablement les gens échangent le trottoir pour leur raconter leur vie, elle sent des trucs à 10 km, moi j'ai mis 10 ans à comprendre, tu vois, donc je me dis il y a des gens qui ont ce
Ouais.
truc un peu naturel de rapport, de
Ouais.
synchro, de connexion à l'autre, et on leur fout la technique, des machins, plein de trucs par-dessus la tête. Est-ce que toi t'as vécu ça, et si oui ou non,
Ouais, je l'ai
dire
très mal
comment
vécu. Parce que du coup, en
ouais.
fait, je suis pas scolaire, moi. Tu sais, il faut que ce soit dans la liberté. Puis, des fois, il y a des cadres dans des formations où ils font en même temps de la formation et de la thérapie. Alors que, bah non, tu viens pour être formé, pas pour être dans la thérapie de toi-même, quoi. Et moi, tout ce qui était un peu intuitif, en fait, instinctif, on avait tendance à vouloir le normaliser, à me faire un petit peu. Puis, il y avait ce côté un peu que j'étais un peu extraterrestre, alors je me faisais un peu rejeter par les autres, tu vois. Ouais, moi je l'ai mal vécu. Mais en fait, pour les gens qui sont créatifs, intuitifs, j'ai envie de te dire, faut pas aller dans. Enfin, je vais parler pour moi-même. Hein. Faut pas aller dans des trucs où c'est déjà construit. Pour le coup, moi l'année dernière, j'ai fait un petit truc avec des hypnos, des petits WhatsApp. J'avais appelé ça transe et intuition. Et elle le savait, et c'était le deal de départ. Je n'avais rien préparé, quasiment rien. Parce que tout se passait entre nous, en fait. Tu vois, je veux dire, pour des gens créatifs, intuitifs, je pense que trop préparer le contenu, c'est pas bien. Me tromper. Moi, je rêve de lancer une formation où les gens, ils viennent, ils savent pas ce qu'ils vont faire.
Ah oui, c'est une idée que j'ai aussi, moi, moi, j'essaye d'adapter souvent mes stages à l'énergie du groupe et à ce que je ressens des gens, là où ils en sont, ce qu'ils peuvent avoir besoin d'entendre, etc. Enfin, par rapport à leur évolution, parce que souvent les stages ne sont pas les mêmes, même si
Ouais.
le fond est le même, tu vois. Après, je pense qu'on peut aussi passer des méthodes en laissant les gens être eux-mêmes. Je pense que
Tout à
Jordan, par
fait.
exemple, fait ça plutôt très bien. Et donc. Mais ouais, voilà, je voulais parler de ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont abîmés par les formations, quelles qu'elles soient, parce que c'est pas qu'elles sont mauvaises en soi, c'est que la pédagogie est pas adaptée à leur énergie, sans pour autant fuir d'apprendre des trucs, etc. Parce que des fois, il y a des gens qui disent « je suis créatif », mais c'est juste qu'ils ont pas...
Oui.
c'est une fuite, tu vois, c'est un peu comme le facile, facile, il y a facile et facile, il y a fluide et fluide. Alors, et donc, ce qu'on évoquait tout à l'heure.
Je pourrais rebondir là-dessus. J'ai envie de dire que si, quand tu démarres une formation, si au cinquième jour, tu as l'impression de plus du tout être naturel et que c'était plus facile avant, et qu'en plus, tu voyais chez l'autre que ça marchait bien, que le rapport était bon, si au cinquième jour, tu dis « putain, je ne sais plus rien faire », mon rapport avec l'autre, il est plus bon, machin. Tu peux te poser des questions.
Ouais. Après, des fois, il y a des phases comme ça où on se trouve moins bon que la veille. Mais...
Oui, mais quand on vient mettre quelque chose d'artificiel sur quelque chose qui te semblait naturel et fluide, tu vois.
Ouais. Ouais, moi, je dirais plus, tu vois, c'est quand tu te sens remis en question dans ton identité, quand les formateurs ou d'autres le sous-texte, c'est que tu es pas bien. C'est pas tout à fait la même chose que ce que tu fais pourrait être mieux. Et c'est même pas du tout la même chose, d'ailleurs. Et je pense que le gre-gre, il doit plutôt traîner.
Tu as raison. C'est ça, en fait. C'est ce que j'avais ressenti, moi. Ouais. C'était identitaire. Donc, c'est problématique quand c'est identitaire. Et comme tu le dis, alors, tu vois, les formations, je parle encore de mon mari. Jordan, je pense qu'il apporte la pédagogie, mais il laisse les gens libres d'être qui ils sont, en fait. Voilà. Donc, ça, c'est cool.
Ouais, je pense que c'est pour ça que ça marche bien et que moi, je renvoie tout le monde chez lui.
Il
n'y
a pas de recette.
Donc, c'est parce qu'il n'y a pas ce jugement sur l'identité. Et même d'ailleurs, on discutait de ça il n'y a pas très longtemps, enfin, il y a quelques mois maintenant avec Jordan sur l'inconvénient du feedback. Ouais. Tu vois, feedback individuel, on fait plus tous les gens font des feedbacks de salle, et donc, parce que ça remet moins les gens en question, ça permet de passer des messages, de laisser les gens faire leur chemin. Je pense qu'on oublie aussi beaucoup l'importance du chemin, tu vois. Et des fois, se planter, tu disais tout à l'heure, d'éviter des formations, c'est des regrets. Peut-être c'est parce que tu les as fait et que ça t'a saoulé, que tu t'es connecté à des trucs qui disent en fait c'est pas pour moi. Toi,
Non, mais si je veux voir le côté positif du truc, parce que moi j'aime bien voir le côté positif, si j'avais pas fait non plus cette formation, j'aurais peut-être pas vécu des trucs que je jugeais complètement chelou, qu'est-ce qui se passe, voilà. Tu vois, des choses bizarres que je trouvais bizarres à l'époque, mais si c'était à refaire, au lieu de faire la formation en entier, j'aurais fait une semaine et puis basta, quoi. Ça aurait été bien.
J'ai mes chiens qui s'excitent. Et donc, c'est une question que je pose dans toutes les interviews que j'ai faites jusque-là, c'est si tu pouvais avoir un gigantesque panneau d'affichage n'importe où, qui parlait aux gens qui passent devant, au monde, il y aurait écrit quoi dessus? Il y aurait quoi dessus? Ça peut être autre chose que des écrits. Et pourquoi?
Un gigantesque panneau d'affichage. Alors, je vais te dire, le premier truc qui m'est venu, enjoy. Voilà.
Enjoy, ok, très bien.
Voilà.
le pourquoi, je pense qu'on en a parlé tout du long du podcast, donc ça aime bien le truc.
Voilà, okay. c'est le truc, bien. Ouais.
Écoute, t'as envie de terminer, de dire quelque chose? Je mettrai les liens dans la description où on peut trouver ton site, etc.
Ouais,
si t'as envie de...
Un petit mot pour la fin. Ah bah déjà, je te remercie. Ah bah c'est sympa, je te remercie de ton invitation. je sais pas, je me suis bien amusée, j'ai passé un bon moment. Je sais pas s'il était atypique, il était de notre type en tout cas.
Ouais, c'est un peu l'idée. Et puis je suis content parce que ça permet ça me permet de rencontrer des gens, parce qu'on se connaît, mais on ne s'est jamais vraiment parlé. Donc, je trouve que c'était intéressant. Puis en plus, là, on a le ton, il y a la voix, il y a tout ça qui n'est pas forcément sur Internet. Et puis, ça permet aux gens de découvrir d'autres regards, d'autres points de vue, d'autres approches, des expériences.
S'enrichir, c'est super, quoi, découvrir... les autres points de vue. Tu sais, quand tu m'avais demandé, tu m'avais posé une question par mail où j'ai complètement répondu à côté, ça a dû te faire marrer. Qu'est-ce que tu me disais? Qu'est-ce qui ferait dans 3 ans que ce serait un souvenir génial, cet enregistrement? Quelque chose comme ça, non? Je sais plus ce que c'était ta question. Ouais, et que j'ai répondu un peu à côté parce que je t'ai répondu c'est si j'ai appris quelque chose, si j'ai eu un point de vue différent. Et du coup, tu m'as répondu justement en me disant, mais en fait, c'est plutôt ton point de vue en fait auquel on va s'intéresser. Eh bien, mine de rien,
Oui.
tu sais, pour moi,
C'était.
à la façon dont tu poses les questions, ça m'en apprend sur toi, donc j'ai appris quelque chose quand même.
Ah bah c'est cool. Bon, bah merci beaucoup, c'était vraiment sympa de t'avoir. Et puis merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous ont écoutés. Et je vous dis à très
Merci à
vite.
toi.
Merci Aurélie.